Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, merci pour votre fidélité à cette émission d'Un jour dans l'histoire que j'ai souhaité consacrer à l'Académie française. Alors pour commencer cette émission, je souhaiterais vous lire un petit texte, un petit billet plus exactement, que j'ai repris dans un cahier personnel, un cahier de citations, de bons mots retenus au hasard de mes lectures, un petit cahier comme nous en possédons tous. Alors, le texte n'est pas de moi, naturellement, il est du regretté André Frossard. Souvenez-vous, dans les années 1980-90, l'ancien académicien tenait une rubrique en première page du Figaro, une rubrique intitulée « Cavalier seul ». Et un jour de l'année 1991, ce qui ne nous rajeunit pas, Frossard écrivit un petit billet intitulé sobrement « Académie ». On pouvait y lire les mots suivants. « À quoi sert l'Académie française ?»« À rien !» déclare M. Jean-François Kahn de l'événement du jeudi. « Naturellement, dit Frossard, il serait discourtois de renverser le propos et de demander à quoi sert Jean-François Kahn. D'abord, on ne saurait pas à qui poser la question. Ensuite, il n'est pas impossible qu'il serve à quelque chose. En tout cas, il pense, il parle, il lui arrive même, tant il a l'élocution facile, de parler avant de penser. Il écrit, il intervient, il disserte et explique, il chapitre et morigène, il ratifie et conteste, il rejette, il adopte, il annonce, il prédit et prévoit. Toutes choses, enfin, dont les académiciens sont totalement incapables depuis 1635. Mais laissons cela, il est déjà beau que Jean-François Kahn ait consacré 2 minutes de son temps à l'Académie, alors qu'il a, par ailleurs, tant d'affaires mondiales à régler. Hélène Carrère-Dancos, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la 4e fois que je vous reçois au micro de Canal Académie. Je renvoie nos auditeurs aux différentes émissions que nous avons enregistrées ensemble. Alexandre II, le printemps de la Russie, l'Empire d'Eurasie et la Russie entre deux mondes. Vous venez de publier, toujours chez votre éditeur, Fayard, donc, une histoire de l'Académie intitulée « Des siècles d'immortalité », donc l'Académie française. Je reviendrai sur le titre après. Mais peut-être une remarque sur cette citation de Frossard que je viens de faire et qui ne vous étonnerait pas parce que, au fond, vous commencez votre avant-propos en fait foi, vous commencez votre ouvrage en citant Paul Valéry. Et Paul Valéry disait en 1935, donc pour le 3e centenaire de l'Académie française, « Nos moqueurs nous sont consubstantiels ». Et Jean-François Kahn en fait partie.
C'est tout à fait exact. Et en fait, les moqueurs de l'Académie se sont manifestés très tôt, puisque la première fois, c'était la comédie des académistes, pratiquement au moment où l'Académie naissait. Alors, tous les styles de moquerie ont existé, mais la question que pose Jean-François Kahn et que reprend avec beaucoup d'humour André Frossard, « À quoi sert l'Académie ?» avec la réponse à rien, est un classique. J'ajouterais ce que disait Frossard, ce qu'a dit Paul Valéry. En général, les gens qui posent cette question, souvent, ils ont envie d'aller à l'Académie. Et l'Académie n'a pas toujours envie d'eux.
Alors, donc, vous venez donc publier « Des siècles d'immortalité, l'Académie française », et quand j'ai reçu l'ouvrage en service de presse, mon sang n'a fait qu'un tour, puisque vous mettez la date de naissance de l'Académie, 1635, un petit tiret et 3 points de suspension, comme si sa mort était annoncée.
Non, c'est au contraire, c'est parce que c'est ouvert. Elle vit depuis des siècles. Depuis des siècles, on entend dire que l'Académie ne sert à rien. Au cours de ces siècles, l'Académie est morte une fois complètement, elle a failli mourir une seconde fois, elle aurait pu mourir une troisième fois en 1968. Donc je veux dire que son existence a été une existence de perpétuel miracle. C'est un miracle, cette institution qui dure depuis presque 4 siècles maintenant, dans un monde qui n'est pas toujours favorable, surtout le monde contemporain, est tout à fait défavorable aux institutions, surtout une institution comme ça, qui ne gagne pas d'argent, qui distribue beaucoup d'argent. Ça, elle distribue de l'argent et au monde des lettres et à des œuvres sociales. Enfin, elle a un énorme mécénat. Mais cela dit, l'Académie n'est pas une institution commerciale. On ne sait pas très bien en effet à quoi elle sert. Elle est composée de 40 personnes, ce qui est tout de même tout à fait étonnant de traverser les siècles sans jamais changer le nombre de gens, sans jamais changer les usages. Elle est très fidèle à ses usages et à un certain style qui n'est plus le style du monde contemporain. Dans le monde contemporain, où, je dirais, la familiarité, souvent les mauvaises manières l'emportent, la retenue que manifeste l'Académie, chaque académicien vit à sa manière, mais la retenue que manifeste l'Académie, cette sorte de survivance d'un style, de ce qui a été le beau style français, ça paraît tout à fait étonnant. Et je dirais que c'est pour ça que c'est miraculeux, qu'on se dit, elle est là. Voilà. Et j'ai cité un texte d'un secrétaire perpétuel de l'Académie de Suède. L'Académie de Suède a été conçue sur le modèle de l'Académie française et qui dit, au fond, que les académies sont des crocodiles ou des dinosaures, comme on veut, mais surtout, c'est-à-dire des gens qui ont la peau très dure.
Alors, je reste sur le titre avant de rentrer dans le livre et puis notamment hein, des deux morts de l'Académie, en tous les cas de ces périodes de crise. Des siècles d'immortalité, on sait que les 40 s'appellent les immortels. D'où vient le nom? D'où vient cette qualification?
J'ai tenu à souligner ça et même à l'expliquer parce qu'il y a un grand malentendu. Au fond, ça fait partie immortel, ça fait partie du vocabulaire maintenant très répandu. Il a été répandu par la presse et beaucoup de gens qui ne sont pas du tout membres de l'Académie française, mais membres d'autres académies, je dirais, sont très contents de penser qu'ils sont des immortels, ou même de le dire. La vérité, c'est que les académiciens qui ont le sens de l'humour savent premièrement que d'entrer à l'Académie n'en fait pas des immortels, ni sur le plan physique, ni, je dirais, sur le plan de la postérité intellectuelle. Et deuxièmement, ils savent que ce mot d'immortalité, qui a donné immortel, c'est tout simplement la devise que leur a donnée Richelieu. Et ça définit l'immortalité de la langue française. C'était cela que Richelieu voulait consacrer, la tâche qu'il confiait à l'Académie. Et par extension, on les a appelés des immortels, mais c'est venu assez tard, la qualification d'immortel. Et ça a fait rire. Après, il y a eu l'immortel d'Alphonse Daudet, etc. Enfin, on en a fait un objet de comique aussi.
Alors, vous parliez de la langue, du style français. Les académies, il s'agit d'une spécificité française ou au XVIIe siècle, on en rencontrait ailleurs?
Alors, il y a eu des académies très tôt. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé, le titre d'académie vient en effet du jardin du grec Académos, où se promenaient vraiment les plus grands esprits de la Grèce. Ça, c'est le passé. Mais le XVIIe siècle a été friand d'académies. En France, en Italie, il y avait des petites académies. Au fond, c'était des petites sociétés de beaux esprits. La première académie en France qui est véritablement, et je dirais un peu partout, qui se soit institutionnalisée avec cet éclat, c'est en effet l'Académie française en 1635. Et vous dites, est-ce une spécificité française? Je crois que oui. C'est un peu la réponse à votre question, même s'il y a des académies, et même si certaines académies ont été copiées sur le modèle français. L'Académie de Suède, l'Académie du Brésil, d'une certaine façon l'Académie de Russie, même si ça a considérablement changé.
L'Académie pontificale des sciences au Vatican.
Oui, exactement. Et d'une certaine façon l'Académie de Roumanie qui essaie de retrouver son style Académie française. Enfin bref, il y a un modèle qui a été très largement diffusé en Europe. Mais il reste que c'est une spécificité française tout simplement parce qu'elle représente ce que ne sont pas les académies ailleurs. Une sorte d'institution portant un magistère des lettres, et affirmant, je dirais, le statut élevé de la pensée. C'est ça qui est intéressant, si vous voulez. Ça a été une surélévation de la pensée à travers une institution. C'est ça qui est original. Et ça tient au fait qu'il y a en effet en France une originalité qui est tout à fait remarquable. La France est une nation littéraire et culturelle, profondément. Et malgré toutes les plaisanteries, je dirais tous les lazis, il est absolument certain qu'il y a une continuité de cette sorte de statut spécifique de la vie culturelle, alors qui a été à son plein épanouissement au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui a évolué, mais qui reste une spécificité très française. On se dispute pour la langue, pour des thèmes littéraires, à la dimension de la nation, comme on ne le fait pas ailleurs. Et on se moque de l'Académie à la dimension de la nation, comme on ne le fait pas ailleurs.
Alors, à l'origine, vous le dites, hein, il y a un groupe d'érudits, mais il y a la rencontre de la science, de la connaissance, de l'érudition, de la langue, avec le monde politique. Et quelle politique? C'est Richelieu. Est-ce que Richelieu fait au fond de... Alors, je sais bien qu'on voit généralement en Richelieu, hein, non pas quelqu'un de machiavélique, mais en tous les cas un calculateur politique, hein, sans nul doute. Est-ce qu'il veut utiliser l'Académie ou quel sens donne-t-il à sa démarche de reconnaissance?
Ça a été tout à fait extraordinaire, parce qu'à l'origine, c'était en effet un petit groupe de beaux esprits, ce qui s'appelait comme ça à l'époque. C'est-à-dire des gens qui se réunissaient chez un de leurs amis et qui discutaient de leurs propres œuvres, des œuvres qu'ils avaient lues, qui lisaient des poèmes, enfin qui passaient, ça s'appelait les après-dîners de Conrart, ils passaient des soirées charmantes. Et ils avaient une particularité, c'est qu'ils sentaient bien que c'était très spécial, qu'il ne fallait pas qu'on en parle à l'extérieur. Oui. Donc il y avait un secret là-dessus, c'était une sorte de société secrète. Et puis évidemment, comme toujours, il y a des bavards, et quelqu'un est allé en parler à Richelieu. Et c'est là que la politique et les beaux esprits se sont croisés. Richelieu était un grand politique, c'était aussi un ambitieux. L'ambitieux s'est dit qu'avoir sa propre académie, quand il était un cardinal de l'Église romaine, ça serait bien. Mais surtout, il était préoccupé de l'unité de la France, il n'y a pas de doute là-dessus, c'était sa grande préoccupation. C'est tout de même la période où l'unité de la France n'est pas assurée, où la langue française est la langue du roi. Depuis Villers-Cotterêts, depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts, au siècle précédent. Mais à part ça, on parlait le latin à la Sorbonne, on parlait tous les patois, tous les parlers différents à travers tout l'espace. La seule chose que le roi avait obtenue, c'est que les cours de justice traitent leurs justiciables en français, pour qu'au moins les gens se comprennent. Bon, il fallait assurer l'unité, et Richelieu a compris, c'est ça qui est chez lui visionnaire, qu'en France, dans ce pays qui était très éclaté, où véritablement toutes les ambitions, tous les particularismes avaient place, c'est la langue qui pouvait jouer ce rôle unificateur. Il y a des pays où l'unité se construit autour d'un projet militaire, autour d'un projet économique. En France, ça s'est construit autour du projet culturel, autour du projet linguistique. Et il a fondé l'Académie, il a capté ces beaux esprits et leur a offert de les prendre sous sa protection, ce qu'ils n'avaient pas envie du tout de faire. Mais enfin, ils ont cédé parce que Richelieu était un personnage redoutable. C'est ça qui leur a été imposé. Et il leur a confié la langue française, mais avec cette mission politique. Et c'est ce qu'on a longtemps ignoré, c'est que l'Académie, dès sa naissance, est une institution politique. Une institution à vocation politique, à projet, qui est le résultat d'un projet politique. Et au fond, ce qui m'a frappé en étudiant presque 4 siècles d'histoire de l'Académie, c'est que tout de même, la politique est au cœur de son histoire et le projet politique se retrouve aux deux bouts.
Alors, l'Académie française a ce qu'on appelle son protecteur. Et le premier donc, des protecteurs, c'est Richelieu en tant qu'homme d'État. Aujourd'hui, le protecteur de l'Académie, c'est Nicolas Sarkozy.
Oui, et alors, si vous voulez, l'Académie française a, par rapport aux autres académies, une particularité. Elle a un lien avec le protecteur qui est tout à fait différent de celui qu'entretiennent les autres académies. Les autres académies, c'est un lien qui est formellement inscrit depuis peu de temps. Tandis que là, le protecteur remonte. Le premier protecteur a été Richelieu. Il a offert sa protection. Et puis, par la suite, ça a été ensuite le cardinal Séguier, le chancelier Séguier, et la question s'est posée à sa mort de savoir qui. Et au fond, Colbert a insufflé, on arrive au temps de Colbert, il a insufflé à Louis XIV l'idée qu'il avait intérêt à prendre cette académie sous sa protection. Et dès ce moment, si vous voulez, le roi de France, c'est même très important, devient le protecteur, et le protecteur qui a ce lien direct, puisque c'est lui, d'abord, qui a donné les textes fondamentaux, et c'est lui qui approuve ou n'approuve pas l'élection d'un membre. Dans toute académie, maintenant, quand un membre est élu, il y a un texte qui paraît, un décret qui paraît, et il est signé du ministre de la Culture, du ministre de l'Éducation nationale. Depuis toujours, à l'Académie française, il faut soumettre. Il n'y a pas de décret, il n'y a aucun texte. L'Académie est élue, on informe le protecteur, le roi jadis, aujourd'hui le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, de cette élection, et il est libre de dire « ça me déplaît ». Et l'élection ne prend effet que quand le protecteur a reçu physiquement, face à face, le nouvel élu.
Ce qui va poser des problèmes dans l'histoire, comme nous allons le voir. Hélène Carrère dans Causse, nous nous retrouvons dans un instant.
Alain Besançon, Renaud Denois de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazeaud, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Je reçois au micro d'Un jour dans l'histoire Hélène Carrère dans Causse. Vous venez de publier, Hélène Carrère dans Causse, Des siècles d'immortalité, l'Académie française, donc une monographie consacrée à cette institution parue chez Fayard. Alors, comme tout corps, ici-bas, au fond, il y a des querelles. Il y a aussi, j'allais dire, non pas des problèmes sociologiques, mais par exemple, vous présentez dans votre ouvrage la manière dont l'Église va investir l'Académie. Est-ce que toutes ces histoires, toutes ces querelles et cette emprise sociologique va parfois créer un risque pour la survie de l'Académie et pour la vie de l'Académie ?
Alors, je voudrais expliquer un petit peu, si vous voulez, comment l'Académie a évolué sociologiquement dans toute cette période que vous évoquez. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une compagnie de beaux esprits. À qui Richelieu a dit, ils étaient une dizaine. Il les a dit, vous êtes maintenant l'Académie française, vous devez être 40. Ça, c'est lui qui a décidé qu'il devait être 40. Et c'est la seule Académie en France qui ait conservé le nombre de membres qu'elle avait à l'origine. Avec un principe fondamental, je voudrais le souligner, que Richelieu lui avait donné, 40 membres égaux, ce qui explique qu'il n'y a pas de catégorie genre correspondant,
on peut être
noble, honoraire.
Ou bien...
On est n'importe quoi, mais on est l'égal des autres,
oui.
Quel que soit votre statut social. Et tout de même, il y a eu des princes du sang qui ont essayé d'affirmer qu'ils étaient plus que les autres et qui ont dû caler. Alors, au départ, donc, il y avait ces beaux esprits qui ont coopté, tout simplement, d'autres gens dans leur genre. Et puis, cette académie a fasciné. Et du même coup, on a vu arriver dans un premier temps des grands seigneurs qui ont eu l'ambition d'y rentrer. On a un petit duc de Coislin qui est arrivé tout jeune, à 16 ans, et qui n'était pas très lettré. Il s'est fait élire à l'Académie. Le petit duc d'Humaine, qui était un petit-fils de Louis XIV, qui était un enfant prodigieux,
extrêmement précoce,
qui avait publié un recueil de poésie à 7 ans, a voulu rentrer à l'Académie. Là, le roi lui a dit qu'il ne fallait pas exagérer. Mais c'est pour dire qu'il y a d'abord eu cette fascination sur les grands seigneurs, parce que c'est ça la première société. Et évidemment, ça a attiré le clergé, pour une bonne raison, c'est que le clergé, c'était une catégorie extrêmement confuse. Il y avait tous les cadets de famille qui allaient dans le clergé, tout simplement parce que, pour des raisons, je dirais, de succession, ils ne pouvaient pas être les successeurs, ils ne rentraient pas dans la vie militaire, ils rentraient dans l'église. Et il y avait des seigneurs à qui on donnait le bénéfice d'abbaye. Donc le clergé recouvrait beaucoup de choses. Et le clergé était souvent relativement très éduqué. Et il y a eu, au cours du XVIIe siècle, on a vu le clergé investir l'Académie au point qu'au début du XVIIIe, on se trouvait un moment devant une situation où il y a 24 ecclésiastiques sur 40 académiciens. Alors, ces ecclésiastiques, évidemment, étaient tous différents, mais néanmoins, ça entraînait évidemment des tensions incontestables, parce que les ecclésiastiques étaient, au fond, ils incarnaient, comme les grands seigneurs au XVIIe siècle, l'adhésion au système royal, l'adhésion à la cour, l'adhésion aux ambitions de la monarchie. Au XVIIIe, on entre dans une période différente, ce sont les Lumières. Et à ce moment-là, là, tout d'un coup, cette Académie qui avait été un des piliers du système monarchique, un des piliers du système de pensée monarchique, du système de pouvoir, tout d'un coup, il rentre, un peu par la force, contre la volonté des ecclésiastiques, contre tout cela, à ceux qui incarnent le nouvel esprit, l'esprit des Lumières qui va conduire à la Révolution française. Il y a donc une dissociation qui s'opérera. Le XVIIIe siècle est le siècle de la dissociation, au fond. Le XVIIe siècle était un siècle d'harmonie en France, d'une certaine manière. C'était le siècle de la monarchie triomphante. Au XVIIIe, les choses changent. On peut même dire qu'il y a, entre la cour et la ville, qui était la même chose au départ, entre la cour et la ville, il y a un divorce. La cour se réfugie à Versailles, la ville, elle est à Paris. Elle est dans les salons. Et dans les salons, on s'élabore une pensée nouvelle. Et l'Académie va devenir un des foyers de cette pensée nouvelle. Alors je peux vous dire, ça a été un conflit, vous parliez de tension, un conflit formidable entre les ecclésiastiques, entre quelques grands seigneurs qui s'en tenaient au milieu du XVIIIe siècle à la rigoureuse pensée de l'orthodoxie, du soutien à la monarchie, et puis tous ces gens qui arrivent, qui s'appellent Voltaire, qui s'appellent d'Alembert, qui portent des idées nouvelles, qui sont, et Voltaire a écrit « Écrasons l'infâme hein, », et l'infâme peuple l'Académie. Donc il y a véritablement, le XVIIIe siècle a été un siècle de conflit au sein de l'Académie, qui est le reflet du conflit qui ravage la France et qui va conduire à la Révolution et à la destruction de la monarchie, et à la destruction parallèle, immédiate, de l'Académie.
Alors, je reviens, avant de venir à la Révolution, peut-être un aparté. Vous montrez au fond que même si sociologiquement elle était tenue par une bonne part d'ecclésiastiques, ça reste un corps qui, je ne vais pas dire, l'expression n'est pas forcément heureuse pour eux, mais qui s'est évolué et qui s'est mué. Et on le verra bien d'ailleurs après la période de Vichy, où l'Académie va être complètement renouvelée après avoir été sinistrée.
Oui, mais alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec le principe d'égalité, Richelieu avait donné deux principes. Au fond, il était un homme autoritaire, mais il s'était montré libéral avec l'Académie. Il avait dit « je vous donne deux principes fondamentaux et je ne vous donne pas d'argent ». Ce qui était tout de même très intéressant. Et alors, les deux principes fondamentaux, c'était l'égalité des membres et l'indépendance à l'égard du pouvoir. Et « je ne vous donne pas d'argent » était le corollaire de « je vous donne l'indépendance ». Vous ne demandez rien au pouvoir, vous débrouillez pour vivre, mais en revanche, vous ne devez rien au pouvoir. Alors, il n'empêche que tout le XVIIe siècle, sous Louis XIV, l'harmonie a été réelle. Bon, si vous voulez, c'est l'époque où on accueille les grands esprits.
Boileau.
Boileau, Racine.
La Fontaine,
la Bruyère, tout ça, c'est une période tout à fait, je dirais, associée à la grandeur, au règne du grand roi. Et puis, avec Louis XV, déjà, les choses vont changer. Car Louis XV est un esprit extraordinairement cultivé, tout le monde le sait. Mais en même temps, déjà, l'érosion s'opère, l'érosion intellectuelle, idéologique commence à s'opérer en France. Et là où Louis XIV n'avait pas eu besoin d'être autoritaire avec l'Académie, parce que l'Académie suivait, Louis XV aura tout de même à manifester sa volonté de temps à autre, ou à s'étonner de certaines élections. C'est là que commenceront les conflits. Et l'affaire grandira jusqu'à la fin du règne de Louis XV. L'Académie a été menacée de dissolution, de fermeture,
par
Maupeou, qui était extrêmement indigné des positions antiques, d'abord des positions très libres en matière religieuse que prenait l'Académie, de la critique qui sentait monter, de certaines élections qui apparaissaient comme des élections menaçant la monarchie. Ça montre, si vous voulez, l'influence de cet ensemble. Et très curieusement, quand Louis XVI est monté sur le trône, l'Académie a soufflé. Elle s'est dit, voilà ce roi qui n'était pas spécialement connu comme un libéral, mais il était très tolérant et il apparaissait comme un homme au fond de bonne volonté. Et l'Académie a cru que tout se passerait très facilement. Ça ne s'est pas passé non plus tellement facilement.
Alors justement, la première mort de l'Académie, c'est ce que vous la qualifiez comme telle, c'est au moment de la Révolution française. Comment s'adapter à une révolution? Parce qu'au fond, vous avez présenté jusqu'à présent une Académie qui, au XVIIIe siècle, sait s'adapter à ce courant philosophique et à la raison telle qu'elle était présentée au XVIIIe. Et pourtant, au fond, cette révolution va, comme souvent les révolutions, l'absorber. Et non pas la détruire, mais la fermer, ni plus ni moins.
Oui, ça a été très curieux et ça a été une surprise très pénible pour l'Académie, parce qu'elle était considérée par la monarchie, depuis le milieu du règne de Louis XV, véritablement comme le bastion de cette nouvelle pensée qui était en train de miner le pouvoir monarchique, qui allait vers la Révolution. C'est dans les rangs de l'Académie qu'ont grandi tous les penseurs qui vont forger la pensée révolutionnaire. Et puis arrive la Révolution, et la Révolution a mangé ses enfants. C'est l'un des siens, Champfort, membre de l'Académie, qui, à la tribune de l'Assemblée, va dire « l'Académie ne sert à rien, il faut la supprimer ». Et elle apparaît, ce qui a été très étonnant pour elle, elle apparaît à ce moment-là comme le symbole d'une élite, et d'une élite que la Révolution ne peut pas absorber. Je voudrais signaler d'ailleurs quelque chose de très amusant, c'est que c'est une Académie où il y avait, je l'ai déjà dit, des gens de toutes conditions, il y avait des grands seigneurs, il y avait ces philosophes, ces représentants de l'école philosophique qui n'étaient pas toujours des grands seigneurs, il y avait trois enfants trouvés, d'Alembert, Champfort et de Lille. C'est-à-dire des enfants abandonnés sur le seuil d'une église. Bon, d'Alembert était le fils de grand seigneur, malgré tout, mais les deux autres pas. C'est dire que l'Académie accueillait les gens les plus divers. Que le passé et, je dirais, le paysage sociologique ne jouaient pas toujours un rôle considérable. Et c'est Champfort qui va être le grand procureur de l'Académie et le porte-parole de la nécessité de les supprimer. Et vous savez que ce que l'Académie a entendu, que non seulement que l'Académie n'a pas besoin de savants, que le génie est sans culotte, etc., mais que l'Académie était insupportable. Donc, elle a été supprimée. Je voudrais dire que toutes les académies ont été supprimées. Mais le sort de l'Académie française a été particulièrement rigoureux. D'une certaine façon, elle était la façade de cette élite. Elle était la plus haute représentante de cette élite. On a supprimé tout le monde au passage. Mais l'Académie française a eu un sort beaucoup plus difficile. Pour renaître, ça lui était beaucoup plus difficile qu'aux autres. C'est celle qui a souffert le plus. Alors, elle a été fermée dans des conditions tout à fait étonnantes parce qu'elle avait été installée par Louis XIV au Louvre, après avoir été sans domicile. Pendant un certain temps, c'était une académie de the SDF dans ses débuts. Et elle allait d'un hôtel particulier à l'autre de ses membres qui lui offraient l'asile, puisque Richelieu n'avait rien voulu lui donner. Alors Louis XIV, à la demande de Colbert, l'avait hébergée au Louvre. Elle avait des salles de réunion qui étaient très belles. Quand Pierre le Grand était venu en visite à Paris, on avait pensé que les salles de réunion de l'académie étaient le plus bel endroit pour accueillir Pierre le Grand. Et on avait prié, c'était la seconde visite de Pierre le Grand, on avait prié l'académie de vider ses salles de réunion pour organiser une suite pour Pierre le Grand. Entre parenthèses, Pierre le Grand qui a trouvé qu'on ne vous amusait pas beaucoup au Louvre, a délaissé complètement cette suite et est allé s'installer dans une auberge où il pensait qu'on s'amusait mieux. Mais c'est dire que l'Académie était bien logée, elle avait là ses archives et ses portraits, et ça c'est une affaire très intéressante, l'affaire des portraits, je voudrais le dire, parce qu'un jour, un de ses grands seigneurs, le duc de Villars, qui était maréchal de Villars aussi, il ne venait pas à l'Académie. Et un beau jour, le secrétaire perpétuel lui a dit « Monsieur le duc, ce n'est pas bien de ne pas venir à l'Académie. » Et le duc de Villars lui a répondu « Monsieur le secrétaire perpétuel, j'y serai, laissez-moi 3 semaines et je serai avec vous à chaque séance. » Il est arrivé 3 semaines plus tard avec son portrait qu'il a suspendu au mur du Louvre. Et cela a entraîné une sorte de surenchère. Et à partir de ce moment-là, où les académiciens ont offert leurs portraits, toujours le principe d'égalité, où le roi faisait financer les portraits pour que tout le monde soit égal. Donc les murs du Louvre étaient couverts de portraits d'académiciens, il y en avait une centaine, et c'est là que des représentants de la puissance révolutionnaire se sont précipités un beau matin, ils ont forcé les portes, ils ont arraché tous les emblèmes royaux, et heureusement pour l'académie qui venait d'être interdite, un homme dont j'ai voulu ressusciter la mémoire, l'abbé Morlaix, c'était un personnage tout à fait extraordinaire, c'était un abbé mondain, mais ça avait été un ami de Madame Helvétius, c'était un protégé de toutes les grandes dames qui tenaient salon. Cet abbé, qui n'avait pas jusque-là fait preuve d'un courage exceptionnel, s'est posé véritablement en archiviste de l'Académie, en sauveur du patrimoine académique. L'Académique lui doit d'avoir conservé son patrimoine, c'est-à-dire qu'il a courageusement... Alors vous savez, on se faisait couper la tête si on emportait quelque chose dans une institution qui était fermée. L'abbé Morlaix a transporté chez lui toutes les archives de l'Académie, je ne sais pas comment il a fait, il a dû prendre une charrette à bras, il a caché tous les portraits de l'Académie et il a sauvé le patrimoine. Et c'est lui qui a fait face à Gara notamment et à Domergue, deux révolutionnaires, deux sans-culottes enragés, qui prétendaient prendre le contrôle de, non pas de cette institution qui était interdite, mais de ses biens. et qui ont pris le contrôle du dictionnaire de l'Académie.
Oui, oui, c'est très poignant d'ailleurs. Vous décrivez l'épisode où on a l'impression de voir une... Enfin, quand j'ai lu ce moment, je pensais au fameux mot, je ne pense pas me tromper en disant que c'était Goebbels. Quand j'entends le mot culture, je sors un pistolet.
C'est exactement voilà. Ça. Et alors, ce qui est très intéressant aussi là, c'est que, d'abord, si vous voulez, il y a eu ce face-à-face entre ces gens et l'abbé Morlaix, qui était cet homme seul, hein, faible, désarmé, qui incarnait, qui était là, ayant tout caché, tous les biens de l'Académie, et qui est allé se cacher après ça. Bon, mais ils ont pris le contrôle, ils ont demandé qu'on leur donne les cahiers du dictionnaire qui étaient en cours de préparation. Et ils ont saisi tout ce qui touchait au dictionnaire. Et la Convention a fabriqué un dictionnaire, c'est-à-dire qu'il y a un dictionnaire de l'Académie, une édition qui est sortie en 1795, qui est une édition, ça s'appelle le dictionnaire de l'Académie, elle a été faite par des gens qui n'étaient pas des académiciens, ou elle a été achevée plus exactement, elle a été préparée. Elle a été achevée par des gens qui n'étaient pas des académiciens, mais qui étaient des amis, des sans-culottes. Et l'intéressant de ça, je dirais, de cet épisode, c'est que c'est au fond le premier exemple d'un vocabulaire, de la recherche d'un vocabulaire politique, d'un vocabulaire idéologique de circonstance. Ce qu'on verra en URSS, dans le système communiste, c'est-à-dire la manipulation des mots à l'usage de l'idéologie au pouvoir. Et on voit ça dans ce dictionnaire.
Hélène Carrère-Nancos, nous nous retrouvons dans un instant.
1866 est une date clé dans la destinée de Bismarck. La Prusse devient l'Allemagne. Pour Canal Académie, Jean-Paul Bled, professeur à Paris 4 Sorbonne, spécialiste des mondes germaniques, auteur d'une biographie sur l'empereur, nous livre les moments phares de cette année dans l'émission « Un jour dans l'histoire ». Téléchargez-la sans plus tarder sur canalacademie.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission donc consacrée à l'histoire de l'Académie. Donc je reçois Hélène Carrère-Nancos de l'Académie française. Vous venez de publier « Des siècles d'immortalité », l'Académie française donc, qui naquit en 1635, un ouvrage paru chez Fayard. Alors Hélène Carrère-Nancos me permet un bond dans le temps, parce que malheureusement le temps nous fait défaut. Nous avons laissé nos auditeurs sur la disparition de l'Académie un temps, elle sera fort heureusement restaurée. Et je voudrais en venir directement à ce que vous appelez les années de gloire de l'Académie. Alors donc, les années de gloire, c'est l'entre-deux-guerres. Pourquoi les années de gloire de l'Académie ?
Parce que, bon, ça correspond avec l'histoire de France. C'est une chose que je voudrais souligner, l'histoire de l'Académie et l'histoire de France s'entremêlent toujours, dans les moments tragiques et dans les moments glorieux. Alors, l'entre-deux-guerres, c'est tout de même, c'est la dernière fois que la France vit glorieusement. Elle a gagné la guerre de 1914 dans des conditions absolument dramatiques. Enfin, ça a été là, après quatre années qui se sont sanglantes, qui se sont passées sur son sol, mais elle en sort victorieuse. Et l'Académie accueille d'abord les maréchaux, tous les grands militaires qui ont illustré la victoire. C'est une période de renaissance pour la France, incontestablement une période de renaissance intellectuelle tout à fait remarquable. L'avant-guerre a été marquée par la querelle de l'affaire Dreyfus, tout était difficile avant-guerre. Et tout d'un coup, dans l'après-guerre, il y a cet épanouissement où l'on trouve des grands esprits littéraires, des grands esprits militaires. L'Académie accueille à ce moment-là sans hésiter tous ceux qui incarnent véritablement un moment important ou de la pensée ou de l'histoire nationale.
D'où la présence des militaires.
Absolument,
aussi au sein de l'Académie.
On l'appelle l'Académie des maréchaux, car ça commence... Alors, l'Académie des maréchaux a commencé avec l'élection de celui qui n'était pas encore maréchal, mais qui était le général Lyautey, qui a été élu juste avant la guerre. Et il ne sera maréchal qu'ensuite. Et il sera reçu à l'Académie que presque 10 ans plus tard. Il a été élu en 1911, il sera reçu en 1920 parce qu'il était occupé au Maroc. Mais il ouvre la voie de ce qu'on appelle les élections de maréchaux, c'est-à-dire des élections qui se passent quasiment à l'unanimité, précisément parce qu'il y a une atmosphère d'unanimité nationale. Et derrière lui vont arriver Foch, Joffre, le maréchal Pétain, ce qui est extrêmement important pour l'histoire ultérieure de l'Académie, le maréchal Franchet d'Espéret, le général Weygand, c'est-à-dire qu'il y a, je dirais, toutes ces gloires nationales, mais accompagnées des grands esprits comme Paul Valéry, toute cette littérature de l'entre-deux-guerres, qui est une littérature magnifique, et où on trouve François Mauriac, enfin... Georges Duhamel, c'est la grande période du roman français, car le roman français n'est rentré à l'Académie que très tardivement. Et c'est la période de gloire d'un roman français, je dirais qu'on ne retrouve plus depuis lors. Alors tout cela s'unit pour faire une Académie qui représente véritablement ce qu'il y a de plus spectaculaire dans cette période de renaissance. De l'entre-deux-guerres.
Alors, votre livre est naturellement émaillé d'anecdotes et vous racontez notamment celle de la procédure. Nous n'avons pas beaucoup parlé de la procédure de vote, mais c'est à cette époque que l'on décide que, exactement comme au conclave, les bulletins de vote soient détruits.
Absolument, et ça tient à une élection qui a été un des grands moments de l'Académie, l'élection de Charles Maurras. La première, celle où il n'a pas été élu. Bon, l'Académie a eu toutes sortes de procédures de vote qui n'ont été fixées que très tardivement. On votait au départ avec des boules blanches et des boules noires, c'est un procédé qui existe encore dans certains clubs élégants. Puis on a voté à bulletin secret. Au départ, ce n'était pas très clair s'il fallait qu'il soit secret. Dans les années 20, on vote à bulletin secret, tout va très bien. Mais les bulletins traînaient sur les tables. Et ce sont des bulletins manuscrits, aujourd'hui encore. Ce ne sont pas des bulletins préimprimés, c'est ça qui explique l'histoire. Alors Charles Maurras s'est présenté en 1926 et il trouve en face de lui... Alors Charles Maurras, il inspirait une terreur bleue, c'était l'Action française, il faisait peur à tout le monde. Il se présente et il a eu contre lui le gouverneur Jonnard, qui avait été gouverneur de l'Algérie, qui était d'ailleurs un bel esprit, c'est Célestin Jonnard, Auguste Célestin Jonnard. C'est important parce que les étudiants ont promené un âne au quartier latin.
Les étudiants d'Action française.
Les étudiants d'Action française, quand Jonnard a été élu contre Charles Maurras, et ils écrivaient partout « Célestin est un âne ». Et l'âne était revêtu d'habits académiques. Bon, Maurras n'a pas été élu. Et c'est Célestin Jonnard qui a été élu, d'ailleurs, au prix non pas d'une fraude, mais de quelque chose qui était un peu frauduleux, c'est-à-dire qu'il venait d'être nommé au Vatican, et il a laissé percer la nouvelle que toutes les difficultés avec le Vatican, l'affaire des biens d'église étaient réglées. Bon, les catholiques de l'Académie ont voté avec enthousiasme pour lui. D'une certaine façon, il y a eu une pression.
Il y a eu un contexte historique qui s'y prêtait.
Il y a eu un contexte historique qui l'a favorisé et la nouvelle n'était pas juste. Donc, on peut dire que c'était à la limite de la fraude. Ce qui a encore accru l'indignation de l'Action française qui tenait tout de même le haut du pavé dans la période. C'était la grande période de Renaissance nationale. Et le lendemain, l'Action française a publié le nom de tous les académiciens qui avaient voté pour Célestin Jonnard. Alors, on a su comment c'était, c'est-à-dire que sur les bulletins d'écriture des gens, quand on était un petit peu dégourdi, on déchiffre les bulletins avaient été subtilisés, quelqu'un a déchiffré soigneusement les écritures, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, pour éviter cela, qu'il fallait brûler, ramasser immédiatement les bulletins après chaque tour de scrutin, et les brûler, ce qui se fait encore.
Alors, il y a aussi l'histoire d'un autre nationaliste, hein, c'est Barrès. Barrès meurt, si mes souvenirs sont bons, en 1923. Il y a là encore une anecdote, puisque, sauf erreur de ma part, hein, c'est Bertrand qui lui succède.
Oui.
Que se passe-t-il exactement ?
Eh bien, pratiquement, il considère que Barrès n'était personne. Et il se montre très critique dans son discours, c'est-à-dire qu'il le traite exactement comme Barrès a été traité par des critiques, comme un esprit sec, sectaire, etc. Je dirais que ça a entraîné une indignation, là encore, dans les milieux plutôt de droite, qui a beaucoup divisé l'Académie. C'est une histoire moindre que l'affaire Maurras, car l'affaire Maurras, elle rebondit au moment de l'élection de Maurras. Maurras a eu contre lui François Mauriac, et Maurras a été élu des années plus tard. François Mauriac avait été élu au milieu des années 30. Maurras se représente, et il se représente après un moment où il a fait scandale. C'était au moment de l'affaire d'Éthiopie. Vous savez qu'il avait menacé, il avait publié un article sanglant en disant tous les députés qui ont voté pour les sanctions contre l'Italie doivent être sanctionnés par le peuple. Chacun peut prendre un couteau de cuisine pour liquider ses traîtres. Il était le traître absolu, lui, aux yeux de Mauriac, et Mauriac a mené une campagne féroce. Et Mauriac avait une habitude, chaque fois que quelque chose ne lui plaisait pas, il se levait à l'Académie, il disait « Je démissionne, j'emmène avec moi mon ami Duhamel, nous quittons l'Académie si on élit Maurras ou quelqu'un de semblable. » Et c'est une haine qui a duré, qui a marqué l'histoire de l'occupation et l'après-guerre.
Alors, il y a bien d'autres de... Alors, bon, ça, c'est une histoire un peu difficile et tragique, mais il y a la belle histoire des frères Tarot, Jérôme et Jean. Tarot, hein, qui sont étudiés par mon ami Michel Lesmarie.
Et qui écrivaient à quatre mains.
Exactement. Donc, c'était deux frères.
C'était deux frères qui écrivaient ensemble. Et il était clair que l'Académie avait envie d'élire les Tarots, mais elle ne pouvait pas en élire deux à la fois. Alors, c'était très amusant. On a décidé d'élire l'aîné. On ne sait pas très bien comment ça s'est fait. Il n'y a pas de trace des discussions. On a élu l'aîné, Jérôme, en attendant de pouvoir élire Jean, qui est venu rejoindre son frère. Et on a eu, dans l'après-guerre, deux couples de frères, Jérôme et Jean Tarot, et Louis et Maurice de Broglie, les scientifiques. Ce qui est un cas tout à fait exemplaire à l'Académie française. Mais le jour où Jean Tarot est venu rejoindre son frère, ça a été un jour de triomphe, parce qu'on a eu l'impression qu'on reconstituait
une œuvre.
Enfin, une œuvre et un auteur.
Oui, une œuvre et un auteur. Alors nous arrivons à la période qui constitue aussi une période tragique, hein, de l'histoire de l'Académie, c'est évidemment la période de Vichy. L'Académie aurait pu vraiment disparaître à ce moment-là. Ce qui ressort de votre ouvrage, c'est là encore, c'est peut-être une comparaison qui n'est pas heureuse, mais quand je vous lisais, je pensais à l'Église qui, dans les moments de crise, sait de manière feutrée s'adapter aux événements, les gérer et, d'un autre côté, évoluer et se transformer.
Alors, je dirais, on peut admettre la comparaison, mais surtout, il y a une situation tout à fait exceptionnelle qu'aucune église n'a jamais connue. C'est-à-dire que l'Académie, vous aviez évoqué tout à l'heure le protecteur. Il se trouve que le protecteur de l'Académie, en 1940, au moment où la France est vaincue et où le régime de Vichy naît, le protecteur, c'est le maréchal Pétain, membre de l'Académie française. Alors ça, c'est un problème considérable. Parce que, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, pour l'Académie, le maréchal Pétain, c'était tout de même, je dirais, le choix. N'oubliez pas que le général de Gaulle apparaît aussitôt, que la question se pose aussitôt de la légitimité politique. Et pour l'Académie, fallait-il reconnaître que le maréchal Pétain était véritablement le chef légitime de la France? Et entre parenthèses, François Mauriac, qui a été un résistant. François Mauriac, en 1940, écrit « Je l'admire, on ne peut pas faire autrement, il fait ce qu'il faut faire ». Les choix n'étaient pas simples. Néanmoins, l'Académie a senti que les choses étaient dangereuses. Et elle a eu beaucoup de chance. Bon, d'abord parce que nombre de ses membres étaient proches du maréchal Pétain, Henri Bordeaux.
Les Abel Hermant et Abel Bonnard.
Ce qu'on appelle les deux Abel. Voilà,
les deux
Abel Hermant,
voilà.
Abel Bonnard.
Qui n'était pas frère.
Charles Maurras, qui n'était pas un pétainiste. Enfin, je veux dire, tout ça, c'était la droite qui aurait pu être proche du maréchal Pétain. Même Paul Valéry est allé à Vichy un jour et il a rapporté les saluts du maréchal Pétain. Les gens allaient à Vichy. Et il fallait savoir quoi faire. Alors, l'Académie a pris une décision. Et puis alors, surtout, celui qui était secrétaire perpétuel à l'époque, André Belsor, qui était un très brillant professeur, un homme d'un esprit remarquable. Il est resté secrétaire perpétuel jusqu'à sa mort en 1942. Et il était plutôt, je dirais, non pas collaborateur, mais tendance vichysoise. Néanmoins, l'Académie a décidé qu'elle n'élirait personne, car élire, ça supposait aller requérir l'accord du protecteur. Et au fond, elle a décidé d'ignorer le protecteur, de vivre en circuit fermé. Bon, c'est un choix dramatique.
Parce qui que, était dangereux pour le renouvellement.
Ça rendait les choses impossibles. Car si ça durait plusieurs années, un jour, l'Académie ne peut voter que s'il y a un quorum de 20 membres. Elle s'exposait un jour à ne plus pouvoir voter et à mourir tout simplement par extinction de ses membres. Néanmoins, elle s'est tenue à cette règle. Elle s'est tenue à cette règle jusqu'à la fin de l'occupation. En 1942, Belsor est mort et a été remplacé par Georges Duhamel. Et on ignore tout à fait, moi j'ai été très frappé de voir à quel point vous parliez d'adaptation. Georges Duhamel, contestablement, c'était un homme qui n'avait pas l'esprit collaborateur, qui a su marquer l'indépendance de l'Académie à l'égard de Vichy. L'Académie était en territoire occupé, il ne s'agissait pas de s'en aller en zone non occupée ou après en Suisse. Elle était à Paris, en plein Paris, avec des pressions incontestables, et notamment des pressions d'Abel Hermant, ou surtout d'Abel Bonnard, qui a été ministre de l'Éducation nationale. Alors, Georges Duhamel a tenu la barre, et l'Académie s'en est tenue à ses règles, c'est-à-dire non seulement elle n'a pas élu, elle n'a rien demandé au protecteur, elle a refusé tout contact avec le protecteur, aucun contact avec les autorités d'occupation, mais plus encore, elle a dans ses séances publiques, elle a tenu à honorer très nettement à partir de 1941 l'esprit de résistance. Il y a un discours de Jérôme Tarrou qui est magnifique, où il proclame en 1941, c'est lui qui fait le discours public, et il dit « l'esprit d'humiliation, l'esprit de culpabilité, la repentance, ça suffit. Nous sommes un grand pays, nous ne pouvons pas nous agenouiller tout le temps. » C'est le contraire du discours de Vichy. Nous avons perdu parce que nous étions faibles, coupables, etc. L'Académie a récompensé, a donné ses prix à des grands résistants, à Jean Prévost qui allait mourir dans les maquis du Vercors quelques semaines plus tard. Elle a salué énormément de gens comme ça dans les séances publiques.
Oui.
Donc elle a marqué véritablement les... Je dirais qu'elle incarnait une vie intellectuelle indépendante. Alors, c'était très bien. Néanmoins, elle avait dans ses rangs le maréchal Pétain qui restait membre, Charles Maurras, le plus voyant c'était Abel Bonnard et Abel Hermant, Henri Bordeaux qui a été traité de collaborateur mais qui s'en est sorti après. Donc si vous voulez, il y a eu une division de l'Académie incontestable. Je dirais que Duhamel a incarné un esprit de résistance mais sans vouloir faire de division. Mais Mauriac s'est posé en... Enfin Mauriac n'était pas là d'ailleurs, il était à Malaga. Mais enfin il s'est posé en une espèce de chef de file de la pureté de pensée. Et en 1944, à l'heure de la libération, Mauriac avait tout de même été membre du Conseil national des écrivains qui était à dominance communiste. C'est-à-dire qu'il était opérateur, il n'y a pas de doute là-dessus. Et son idée était tout de même qu'il fallait purger l'Académie, qu'il fallait la modifier profondément, faire élire des tas de gens comme ça autoritairement. Et Duhamel a tenu la ligne, c'est-à-dire il a dit « attention, l'Académie ne doit pas céder à l'ère du temps ». Et c'est Duhamel, parce que la question qui se posait, c'est le général de Gaulle qui n'était pas tendre pour les collaborateurs, comment allait-il regarder l'Académie? Et l'Académie a eu très peur que le général de Gaulle, malgré tout, à cause de ses figures collaboratrices qui étaient dans ses rangs, bah, qu'ils disent « on ferme l'institution ». Partout on proclamait, c'était même l'air du temps, « fermons les institutions, faisons du neuf, les communistes au pouvoir, etc. ». Le général de Gaulle avait le sens de l'histoire.
Et au fond,
Et de la littérature, il a tout de suite expliqué, a invité Paul Valéry et Duhamel, et leur a dit, la seule chose qu'il leur ait proposée, il a dit, au fond, vos rangs sont vides, parce qu'il y avait un nombre de morts considérable, et il n'y avait plus de quorum à l'Académie. Alors il a dit, vous devriez nommer des gens qui ont fait de la résistance. Malgré tout, malgré la pression du temps, Duhamel a refusé. On a fait des élections avec un quorum insuffisant, mais on les a faites. Et à ce moment-là, l'Académie était sauvée.
Alors, ce qu'il y a d'étonnant, hein, je crois que c'est le terme que vous utilisez, c'est que pour justement ceux qui ont été considérés comme collaborateurs, il y a une forme d'épuration, une radiation ou une exclusion, mais jamais le terme de radiation ou d'exclusion n'apparaît dans les différents textes.
Non, et je vais vous dire ce qui est très intéressant, c'est que tous les gens qui ont parlé de l'Académie, qui dans leur mémoire ont écrit, des académiciens qui ont écrit comment les choses s'étaient passées, au fond, comme les gens ne consultent pas les archives et que la mémoire des témoins est toujours, on le sait, est toujours extrêmement fragile, ils ont dit, il y a eu un débat sur faut-il radier, pas radier, etc. Non, moi j'ai travaillé sur les archives, ça n'a jamais été prononcé. Et il y a une bonne raison d'ailleurs, c'est qu'il se trouve que l'Académie a dit on va attendre que la justice se prononce. La justice s'est prononcée, a condamné non seulement à mort ou à des peines de prison, mais elle a condamné à l'indignité nationale. Ça, c'était un chef d'accusation qui n'existait pas, qui a été créé en 1944. Tout le monde l'a oublié. Et il y avait une première loi sur l'indignité nationale qui, je dirais, excluait les gens de toute activité économique, libérale, etc. Et puis la loi qui la complétait frappait les corps constitués. On ne pouvait pas vivre dans un corps constitué si on était frappé d'indignité nationale. L'Académie était un corps constitué. Ça suffit pour que le maréchal Pétain, lorsqu'il a été condamné, Maurras, lorsqu'il a été condamné, ne soit plus de l'Académie. C'est bien pour ça qu'on n'a pas eu. On a constaté, on a dit, voilà, ils sont condamnés, il y a l'indignité nationale, c'est terminé. Et ils n'étaient plus dans l'Académie. Mais il y a tout de même eu, l'Académie a considéré que la collaboration n'était pas un mot global, qu'autant les deux Abel avaient véritablement collaboré et dès qu'ils ont été condamnés, leurs fauteuils ont été pourvus, autant dans l'histoire de Charles Maurras, qui était un vrai patriote, et dans l'histoire du maréchal Pétain, l'Académie a considéré qu'il leur fallait un traitement différent. Ils ne faisaient plus partie de l'Académie, parce que ça c'est dans les statuts de l'Académie, on ne doit pas être condamné, mais en même temps, on a décidé que leur fauteuil ne serait pourvu qu'à leur mort. C'est-à-dire que c'est une façon d'accepter qu'ils ne soient plus de l'Académie, en même temps, je dirais, de ne pas les exclure vraiment.
Et il y a eu, malgré leur exclusion, entre guillemets, il y a eu des discours par les élus.
Quand ils ont été remplacés,
par les
leurs successeurs,
élus, oui, leurs successeurs
ont su parler d'eux avec beaucoup de dignité, je dois dire, sans vindicte, sans rien du tout. Au fond, l'Académie vit, c'est pour ça que j'ai appelé ça des siècles d'immortalité, elle vit sur une longue durée. Et les discours aussi tenaient compte, au fond, de la longue histoire de l'Académie, de la longue interprétation et du sens du patriotisme, etc. C'est ça qui marque.
Nous arrivons, Hélène Carrère d'En Cause, peu à peu à la fin de cette émission. Il y a beaucoup d'autres sujets. Vous répondez à la question « L'Académie fut-elle de droite après-guerre ?» Vous montrez la mutation, en tous les cas la révolution Yourcenar, avec son élection, l'arrivée de la regrettée Jacqueline de Romilly. J'en viens plutôt un peu de prospective. Comment expliquer cette pérennité, au fond ? Quel est le dénominateur qui fait que, quelles que soient les époques, quels que soient les aléas de l'histoire, eh bien, l'Académie reste toujours là ?
Alors, c'est une très bonne question. Je crois que ce qui est l'explication, c'est que d'une certaine façon, l'Académie, qui a été créée par un homme qui avait un sens de l'histoire extraordinaire, c'est même le cas de Richelieu, elle a toujours coïncidé avec l'histoire et les urgences de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'elle a coïncidé avec l'unité qui s'achevait sous Louis XIII, avec cet épanouissement extraordinaire de Louis XIV, avec la Révolution. Et elle retrouve aujourd'hui sa vocation, la vocation qu'elle a eue véritablement à l'époque des origines, c'est-à-dire elle retrouve une vocation de facteur de cohésion. La nation, il y a tout un débat pour savoir si on doit employer le mot nation. Bon, il est clair que la société française, comme la société de tous les pays européens, est en état de complète mutation en raison tout simplement des frontières ouvertes, des migrations, etc.
Des nouvelles technologies.
Des
Internet,
nouvelles technologies,
etc.
Du fait que les gens physiquement sont dans un endroit et se trouvent à Ouagadougou au même moment et dans l'immédiat vivent la vie de gens qui sont à 11 fuseaux horaires 2. Enfin, tout ça est tout à fait troublant. Et c'est vrai que ce qui unit les sociétés n'est pas tout à fait évident. Il y a des sociétés à reconstruire. Et la reconstruction de la société française, incontestablement, qu'est-ce qui unit les hommes qui vivent dans les banlieues et qui ont des origines différentes, dans certains quartiers, ceux qui sont installés au cœur des grandes villes et dont toute l'histoire familiale s'est déroulée dans les mêmes lieux, les habitants des campagnes, qu'est-ce qui les unit ? Ou qu'est-ce qui doit les unir ? C'est la langue qui parle. Parce que ça, c'est la spécificité française. C'est autour de cela que la France est née, c'est autour de ça qu'elle peut se développer. Et on voit bien que la nécessité pour se comprendre, Alain Perfit avait dit que ce qu'il fallait, c'était créer une société de confiance. La confiance ne s'acquiert pas à coups de poing, elle ne s'acquiert pas dans le vague. Elle s'acquiert parce qu'on se comprend. Et pour se comprendre, le sens passe par quoi ? Par les mots. Et incontestablement, la langue française est aussi éclatée que l'est la société. En ce moment, elle est éclatée entre tous les parlers possibles. On retrouve, si vous voulez, d'une certaine façon, la situation qu'on avait au XVIe siècle. Tout simplement parce que la langue régionale revendique le droit d'exister, on passe le bachot avec les langues les plus invraisemblables, il faut bien retrouver un facteur d'unité. Et c'est très curieusement, à près de 4 siècles de distance, que l'Académie retrouve la fonction qu'elle a eue au départ, c'est-à-dire présenter véritablement, essayer de construire cette langue qui est la langue d'aujourd'hui. Et c'est pas facile, parce que la langue d'aujourd'hui, c'est pas exactement celle d'hier. C'est celle qui doit absorber toutes les innovations et en même temps ne pas céder aux modes. Et de la construire pas simplement pour le plaisir intellectuel, mais pour essayer de contribuer à cette reconstruction de la société.
Eh bien, c'est sur cette idée de reconstruction et donc d'avenir que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Hélène Carrère-Nancos.
Merci à vous.
Je rappelle donc les références de votre ouvrage, donc des siècles d'immortalité, l'Académie française 1635, un ouvrage paru chez Fayard. Et je renvoie nos auditeurs aux différentes émissions que nous avons enregistrées ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.